point de mire. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
On retrouve Édouard Rosset.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur Canal Academy dans l'émission Point de mire, une édition spéciale que vous propose Canal Academy aujourd'hui. Édition spéciale puisque nous vous proposons de suivre la cérémonie de remise de la cravate de commandeur des arts et des lettres à Monsieur Jean Cluzel, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Cérémonie dans les salons du Palais du Luxembourg, les salons du Sénat, le mardi 9 novembre 2004. Monsieur Jean Cluzel recevait cette cravate de commandeur des arts et des lettres des mains d'André Damien, lui-même membre de l'Institut, grand officier de la Légion d'honneur. Monsieur Damien, que nous écoutons.
Je voudrais vous dire que tous ces travaux, qui sont les siens, ont amené le ministre de la Culture et de la Communication à avoir une idée géniale de plus, c'est-à-dire qu'il a dit « il faut que Monsieur Cluzel soit membre de l'Ordre des Arts et Lettres ». Et ce fut un long concert d'applaudissements lorsque, au nom du ministre, puisqu'il n'assiste pas aux séances, c'est le vice-président que je suis qui les préside, et lorsque j'ai donné le nom de M. Cluzel, il y avait d'abord l'Institut, M. Dautrive, Francis Giraud, il y avait Mme de Boisdeffre, parmi les plus enthousiaste, Philippe Meyer, c'est-à-dire que tout le monde était là pour dire « Ah oui, quelle chance d'avoir désormais M. Cluzel parmi les dignitaires de l'ordre, c'est-à-dire les commandeurs des arts et lettres ». Alors, pourquoi M. Cluzel a-t-il reçu, de la part du ministre de la Culture et de la Communication, a-t-il reçu cette cravate sans passer par les grades intermédiaires ? Eh bien, tout simplement parce que il est un homme de culture et qu'il a découvert ou fait découvrir à Paris, au bout de 27 années de présence dans cette maison, il a fait découvrir le Bourbonnais et ses richesses naturelles, littéraires, artistiques, à partir de Valéry Larbaud et des ducs de Bourbon. Et Monsieur Cluzel, je ne peux pas en faire un portrait, parce que je serai confronté à un dilemme. Il est le notable type. 27 ans de sénateur, dans des commissions importantes, puisqu'il travaillait avec vous, monsieur le chancelier honoraire. Ensuite, l'Académie, secrétaire perpétuel. C'est vraiment l'homme installé, et pourtant, il est un homme de mouvance gauchiste. Non pas au sens politique du terme, mais parce qu'il a l'art d'être un humaniste et un agitateur de la démocratie. Il sait lui donner un lustre qu'elle n'a pas si elle n'est pas incarnée par des personnes exceptionnelles. Quand on se penche sur sa vie et sur son action, on peut manquer d'être frappé par la cohérence de son parcours. Cohérence d'une personnalité ayant une fois pour toutes fait un choix de vie au service de ses concitoyens. Éternellement insatisfait de l'état de fait, mu sans cesse par l'espoir d'un monde meilleur, Jean Cluzel est resté fondamentalement un jeune homme, prêt encore aujourd'hui à se lancer dans des aventures similaires à celles qui ont jalonné son existence. La première d'entre elles, c'est Position. Connaissez-vous Position ? Eh bien, voici le premier et le deuxième numéro de cette revue dont la couleur vous montre déjà l'ancienneté. Position est une revue, j'allais dire presque une revue d'étudiants, renéotée, confectionnée, lancée par Jean Cluzel en janvier 1955. Ils étaient une dizaine autour de lui pour lancer cette revue. Quel était le contexte ? La 4e République était en crise. Partout en France se créaient des groupes de réflexion. La plupart d'entre eux se trouvent dans les grandes villes. Position, la petite revue que j'ai là, premier et deuxième numéro, c'est rare et précieux, fait exception, puisque le projet de donner une vie nouvelle à une province qu'on aurait pu croire oubliée, le Bourbonnais. Autour ou à côté de Jean Cluzel, la bonne fée, Madeleine Cluzel,
qui est dans l'ombre, toujours active, et sans le dévouement constant de laquelle la revue n'aurait pas pu exister sous cette forme. Jean Cluzet n'a jamais renié ses racines, n'a jamais tourné le dos à l'Allier. Élu sénateur en 1971, membre de la commission des finances en 1974, il a maintenu avec fermeté et présence auprès de ses électeurs et continué à faire vivre ce qu'il avait créé. Son travail de promotion de la culture bourbonnaise continue enfin, encore, comme le prouve le beau livre paru sur Anne de France, qui était un personnage bourbonnais par nécessité. Une autre aventure l'attendait à Paris, c'est celle de l'audiovisuel. Et c'est tout le discernement de monsieur le chancelier honoraire Édouard Bonnefous, président de la commission des finances, qui a remarqué par les nouveaux sénateurs Jean Cluzel, en qui il a distingué un parlementaire exemplaire, présent en séance, présent dans le travail des commissions, présent dans son département, et il lui a confié cette idée des rapports, et notamment du rapport, parmi les rapports Cluzel si nombreux, du rapport sur l'audiovisuel qui a eu le succès que l'on sait. Si le découragement avait été un des traits de caractère de Jean Cluzel, il ne se serait pas lancé l'an dernier dans une nouvelle croisade, dans une critique acerbe des modes de financement du cinéma français. Il a publié des propos impertinents sur le cinéma qui ont été, à mon avis, quelque chose, une analyse extrêmement lucide d'un phénomène très curieux qui est le déclin du cinéma français. Alors, votre action dans l'audiovisuel ne se limite pas à l'action politique, car vous savez qu'il est tout aussi important de convaincre les esprits et de travailler à la formation de l'opinion publique. C'est dans cet esprit que vous avez créé l'association Démocratie Média, ainsi que les clubs audiovisuels de Vichy et de Toulouse, qui sont toujours actifs. Encore jeune étudiant, vous avez répondu à l'appel humaniste d'un homme d'exception, dont le souvenir reste vivant en vous et dont vous aimez à rappeler l'importance primordiale qu'il eut sur le cours de votre existence, le père Joseph Diard, jésuite, déporté et mort à Dachau, rencontré quand vous militiez aux heures sombres de l'occupation dans les jeunesses chrétiennes et dont un membre de la famille est présent ici parmi nous ce soir. Depuis la guerre, vous n'avez jamais cessé de mettre en œuvre les leçons que vous avez reçues de lui, être intransigeant quand il s'agit de la vérité, intraitable quand il s'agit de soi et généreux quand il s'agit des autres. Et il y a une chose exceptionnelle que vous n'aurez pas ce soir, parce que c'est un peu long à faire, c'est le champagne à la Cluzel. Vous prenez un bon champagne de préférence et vous le traitez un peu comme on faisait en 1900, à l'époque de Proust et de Maxims. Bloch, dans La recherche du temps perdu, sert le champagne de cette manière. C'est-à-dire que, ayant pris une carafe à décanter, ou une carafe tout simplement, et l'ayant longuement passée avec de la glace pilée, que vous avez retirée en quasi-totalité, mais pas totalement, vous débouchez la bouteille de champagne à température de cave, et vous la décantez dans cette carafe. Là, elle prend la température normale qu'elle doit avoir. Elle perd l'excès d'acidité qu'elle pourrait risquer de porter et elle perd surtout l'excès de bulle. Et vous avez dans ce champagne à la Cluzel le raffinement le plus rare, le plus important, le plus désiré en tout cas. Mais c'est très long à faire et ça demande un maître de maison attentif à ses hôtes. Mais je vous ai dit qu'il était généreux et attentif à tous son prochain, même à ceux qui viennent déguster chez lui. Alors, je crois que j'ai résumé d'une manière tantôt sérieuse, tantôt plus facile, ce qu'est notre ami Cluzel. C'est un homme exceptionnel dont je suis fier d'être l'ami, qui nous a marqués tous, notamment à l'Académie, sous l'aide éclairée de monsieur le chancelier, qui sait partout apporter la concorde, la paix et l'autorité nécessaires pour que cette maison marche bien. Et maintenant, selon le rituel, je vais lui remettre cette cravate qui a été fabriquée donc par Sub, qui est fort belle, qui a été décerné par le ministre de la Culture et de la Communication et qui nécessite une seconde personne à côté de lui pour faire le petit nœud nécessaire pour les cravates de commandeur. Au nom du ministre de la Culture et de la Communication, nous faisons commandeur de l'Ordre des Arts et Lettres.
Après cette remise officielle de la cravate de commandeur des Arts et des Lettres à M. Jean Cluzel, nous écoutons le récipiendaire.
Raymond Queneau avait compté 99 moyens de raconter une vie. Aujourd'hui, André Damien nous invente la centième façon de raconter une vie. Centième façon, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amitié aussi. Je lui en sais gré, mais il s'agit en fait, cher André, d'une de vos plus belles plaidoiries. Et il fallait bien une plaidoirie de cette qualité pour obtenir en première instance l'accord des membres du Conseil de l'Ordre et en deuxième instance, l'avis d'un public, d'amis rassemblés ici, mais qui demandait encore à être convaincu. Il est vrai que vous l'avez fait avec votre talent d'avocat, cet avocat que vous définissez sur le site internet de l'Académie, comme jouissant des satisfactions intellectuelles d'une liberté totale, comme ayant la joie de la controverse, comme ayant le triomphe du théâtre, et comme enfin ayant le cœur à cœur avec un homme. Eh bien, je crois que, à défaut de controverse, à défaut de théâtre, à défaut de liberté totale, c'est un cœur à cœur que nous avons ce soir avec vous, cher André Damien, et si vous le permettez, avec tous les amis qui sont ici, et qu'avec vous, je vais saluer maintenant, vous, monsieur le chancelier, famille de l'Institut, monsieur le chancelier honoraire, madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie d'inscriptions et belles-lettres, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts, madame le secrétaire perpétuel et monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, monsieur Raymond Barre, et monsieur le président de l'Académie des sciences morales et politiques, et tous les confrères des cinq académies qui sont ici, mais je passerai maintenant à ma deuxième famille, la famille institutionnelle, celle du Sénat, représentée ici par ses membres les plus influents. Hélas, les séances du Sénat nous ont privés de quelques-uns des dirigeants de cette maison, mais ils ont bien voulu me dire qu'ils étaient tout cœur avec nous. Ma famille bourbonnaise, autour de M. Patrick Subrémont, préfet de l'Allier, des sénateurs Gérard Dériot et Bernard Barrault, vieux équipiers de tous ces combats, chers amis, et qui le poursuivent encore bien mieux que ce que nous avons fait ensemble, Radio France, Radio France Internationale, et tant de médias représentés ici, et que nous remercions tous les deux, si vous voulez bien, de tout cœur. Vous avez, cher André Damien, jeté un regard sur ce couple qui venait dans l'Allier, par décision, il y a tout juste 57 ans, avec le projet un peu fou de changer l'Allier, de lui apporter tout à la fois des raisons d'agir et des raisons d'espérer. Ce couple avait ses quatre mains à peu près nues, avait sa foi et son idéal, mais il manquait encore beaucoup de choses. Et parmi cet idéal, il y avait au fond cette nécessité pour cette génération née entre les deux guerres de remplacer ceux qui étaient morts en 14-18, ceux qui étaient morts en 39-45, de succéder dans la vie civile à ceux qui, avec les armes, avaient rendu son honneur à la France. Et c'est pourquoi vous avez eu raison de rappeler le père Victor Dillard, engagé volontaire en 17, prisonnier évadé en 40, venu à Vichy en 41, s'occuper de la jeunesse qui se trouvait là, et parmi cette jeunesse qui se trouvait là, il y avait évidemment quelques Bourbonnais, quelques Bourbonnaises, et c'est ce qui explique beaucoup de choses pour tout ce qui a suivi. Mais fallait-il encore trouver une source qui soit une source précisément bourbonnaise et qui s'ajoute à la foi et à l'idéal? Et nous sommes aperçus très vite que cette source existait. Elle était irremplaçable. Elle était inépuisable. C'était la source des écrivains bourbonnais. C'était notre chance, mais cela mérite quand même, si vous le permettez, quelques explications. En effet, dans ce petit hameau de Bransat perdu au fond de l'Allier, nous étions à quelques kilomètres de Saint-Pourçain-sur-Sioule, que Blaise de Vigenère, l'humaniste, avait rendu célèbre au XVIe siècle. Nous étions à quelques dizaines de kilomètres d'Émile Guillaumin, le premier paysan écrivain. Nous étions à quelques dizaines de kilomètres d'Émile Malle, né à Commentry, à quelques dizaines de kilomètres de Valéry Larbaud, qui s'était illustré à Vichy. Et dans les années 50, ils allaient décéder tous les trois. Donc il fallait recueillir leur héritage et il fallait pouvoir permettre à ceux qui sont autour de nous, avec nous, de profiter de cet héritage d'humanisme. À vrai dire, les années 50, c'était déjà le nazisme refoulé, mais c'était encore le communisme dans sa forme la plus dure, et c'était encore des réactions en France difficiles à accepter, soit sur le plan politique, soit sur le plan intellectuel. Et c'est aussi en 1953 que arrive, en faisant beaucoup de bruit, ce roman dont le titre était tout un programme, Fahrenheit 451. Fahrenheit 451, chacun le sait, c'est la température qui permet à un livre de s'enflammer et de se consumer. Et dans ce roman, l'auteur redoutait que la lecture soit bientôt considérée comme un acte antisocial et il mettait en œuvre un corps de sapeurs-pompiers chargé tout simplement de brûler les livres. Vous me direz, mais c'est bien vieux tout ça, cela fait 50 ans, c'est vrai, 51 ans. Mais c'est ce qui s'est passé au Rwanda tout récemment, pas pour des livres, mais pour des hommes et des femmes. Et par conséquent, la folie humaine dure toujours et il faut s'y opposer. Et nous nous y opposons les uns et les autres. Nous avons donc pris le contre-pied, nous avons pris le contre-courant, pour employer le terme d'un livre de Michel Crozier qui vient de sortir, à contre-courant, parce que nous savions bien que si les livres ne prenaient pas le risque d'être brûlés à cette époque, en France tout au moins, nous savions bien que la télévision, qui est la première source de connaissances en France, pouvait reléguer la lecture et les émissions littéraires la nuit ou l'été, selon le titre du rapport de Catherine Clément. Nous savions bien aussi qu'une omerta, ici comme ailleurs, pouvait s'appliquer, lancer ses tentacules et supprimer toute connaissance de livre. Tout cela, nous le savions. Nous savions aussi avec Marcel Gaucher, dont la formule est éclairante, le niveau monte et le livre baisse. Lorsque l'on constate, mesdames et messieurs de l'université française, lorsque l'on constate le nombre d'étudiants qui ont augmenté en une cinquantaine d'années et la déficience de la lecture qui s'en est hélas suivie. Et puis, Nous avions trouvé aussi, chez les professeurs du Collège de France, cette bibliothèque imaginaire, ces 35 professeurs qui racontaient les livres, qui décrivaient les livres, par qui ils avaient été marqués et par qui ils avaient été faits. Et je vous parlerai simplement de Jacqueline de Romilly, Madame le secrétaire perpétuel. Jacqueline de Romilly et Monsieur le secrétaire perpétuel des Institutions et Belles-Lettres, puisqu'elle fait partie des deux académies. Jacqueline de Romilly dit « Moi, c'est Thucydide. Et ce fut l'homme de ma vie. » Et c'était durant l'été 1935. Et elle dit « Il m'a marqué, non seulement parce qu'il m'a donné, il m'a marqué l'esprit, mais en plus, il m'a même marqué le caractère. » Marqué le caractère, c'est vrai, cher André, chers amis, de la part des écrivains. Et c'est Goethe qui disait, chez l'écrivain, ce qui compte plus que le talent, c'est le caractère. Et c'est par leur caractère qu'ils peuvent avoir de l'influence et de l'importance dans le monde littéraire. Encore fallait-il que nous prouvions que ces écrivains bourbonnais n'étaient pas des écrivaillons, ceux dont je donnais les noms. Encore fallait-il prouver qu'ils atteignaient à l'universel. Alors là, c'est un grand débat. Si vous écrivez dans nos provinces, il faut vraiment beaucoup de chance pour arriver à se faire reconnaître à Paris et à se faire reconnaître comme un écrivain qui atteint à l'universel. Alors c'est une grande querelle. Une grande querelle, et Jean Anglade a croisé le fer contre Larousse. Parce que Larousse estimait que Henri Pourrat était un maître de la littérature régionaliste. Eh bien non. Car, disait-il, lorsque Corneille a écrit le Cid, il ne faisait pas de la littérature castillane. Et lorsque Flaubert a écrit Madame Bovary, il ne faisait pas de la littérature normande. Et Jacques de Bourbon-Busset estime que l'on arrive à l'universel par le singulier parce que, ajoutait-il, l'intelligence du cœur n'est autre que le cœur de l'intelligence. Nous étions donc assurés que les trois écrivains dont j'ai parlé tout à l'heure, Émile Guillaumin, Émile Malle, Valérie Larbeau, atteignaient à l'universel et que nous pouvions les prendre comme des modèles de cette action de civilisation dans ce tout petit pays, dans ce grand pays, messieurs les sénateurs de l'Allier. Émile Guillaumin, 1904, c'était son livre qui est connu dans le monde entier, La vie d'un simple. Cet homme a été un paysan, est resté un paysan, il n'a pas voulu quitter son métier, et le soir, après le travail, il écrivait. Quant à Émile Malle, l'homme qui a redécouvert les cathédrales, je veux dire le sens des cathédrales, Émile Malle a eu ses propos, il a dit « Lorsque on a décidé de construire les cathédrales, le peuple a offert ses bras pour porter les pierres. Les bourgeois ont offert leur argent. Le baron a offert ses terres et les artistes ont offert leur génie. » Et il ajoutait, la cathédrale était la conscience de la cité. Et même les morts étaient là, puisque, dit-il, ils étaient en gisant, ils gisaient et ils accompagnaient de leurs prières celles des vivants. Quant à Valérie Larbeau, ce maître écrivain qui nous a fait découvrir Joyce, qui nous a fait découvrir les écrivains d'Amérique du Sud, il s'est hélas emmuré en lui un jour de 1935. Et en 1973, un lointain prédécesseur de M. Donnieu de Vabre, qui n'était autre que Jacques Duhamel, est venu chanter ses louanges à Vichy en 1973. Et il a dit, Valérie Larbaud, en 1935, avait encore 22 ans à vivre. Il a ajouté, en réalité, il avait encore 22 ans de mort, car il était, comme vous le savez, atteint de sclérose en plaques. Et pour Jacques Duhamel, c'était un aveu qui le touchait, puisque vous le savez, lui aussi, peu de temps après, j'avais la joie d'être parmi ses proches, et nous l'avons vu peu de temps après, suivre le même calvaire, puisque peu à peu, il s'est emmuré lui aussi en lui-même. Assurer que nous avions une source, assurer que cette source avait une valeur d'universalité, il ne nous restait plus qu'à agir, et nous avons lancé position. André Damien vous l'a raconté tout à l'heure. Ce fut une aventure passionnante. Monsieur Barr est venu, et certains des personnalités qui sont ici sont venus également. Et actuellement, encore sous la conduite de Gérard Dériot et de Bernard Barrault, les carrefours continuent et même s'accélèrent, puisque le mois dernier, le mois d'octobre, il y a eu deux carrefours avec beaucoup de monde, et que ces carrefours, pour le dernier, s'intéressaient aux élections américaines. C'est vous dire que dans ce petit coin de l'Allier, on continue toujours à s'intéresser à la vie du monde et à l'évolution du monde. Nous avons voulu tous ensemble que la culture soit une culture partagée, soit une culture vivante, et c'est la raison pour laquelle, à partir de ce club position, nous avons créé ici même, en 1983, les biennales du livre et des écrivains bourbonnais. Gérard Dériot a présidé le mardi 22 juin de cette année une version actualisée de ces biennales, et de même que nous avons créé les prix Allen. Je passe, ça demande simplement du travail, ça demande simplement de l'opiniâtreté, ça demande simplement des amis, ça demande simplement de la bonne volonté, toutes choses qui, dans notre pays, sont beaucoup plus courantes qu'on ne le croit. Il suffit simplement de le solliciter, de le demander, et puis de prendre sa part du travail commun. Et quand tout cela est réuni, ça marche et ça explose. Ma conclusion sera brève. Elle viendra, si vous le voulez bien, mes chers amis du cœur, à ceci près que je voudrais réparer un oubli tout à fait involontaire, car je n'ai pas salué l'équipe de Canal Académie qui est ici. Je répare cet oubli. Monsieur le Chancelier, ce Canal Académie vous doit son existence, et je tiens à vous en remercier de tout cœur, ainsi que mes confrères, secrétaire perpétuel des quatre académies et le président de mon académie. Ce Canal Académie, qui est une radio qui va monter, pour l'instant il s'agit d'asseoir le socle, mais elle va monter avec nous tous et nous toutes. Je terminerai simplement en rappelant cette phrase de Valérie Larbaud, à laquelle nous sommes souvent raccrochés. Lorsque Valérie Larbaud, c'était peu de temps avant qu'il ne soit emmuré, disait « Il faut lutter sans arrêt, avec enthousiasme, contre la tendance des choses à aller vers le pire, pour organiser et pour construire. » J'ajouterai simplement « pour aimer et pour faire aimer ». Mesdames et messieurs, mes chers amis, merci de tout cœur.
C'était la cérémonie de cravate de commandeur des arts et des lettres, cravate remise, je vous le rappelle, à monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Jean Cluzel, le mardi 9 novembre 2004 dans les salons du Sénat à Paris.